Salut, on va donc passer une heure avec vous, Christopher Priest. Je suis ravi de vous voir, de vous accueillir aujourd'hui, même si on s'est vu assez rapidement hier. On va passer une heure ensemble à vous écouter parler de vos ouvrages. Et vos propos seront traduits, interprétés par Victoria. Et puis il y aura deux moments de lecture que fera Sophie Morel. De, non pas le dernier livre, mais un livre important, Le Glamour, que vous avez écrit plusieurs fois et qui est symptomatique de votre œuvre. Un petit mot d'abord de présentation, mais on pourra dialoguer aussi à propos de votre biographie, s'il y a des choses que vous souhaitez développer. Vous êtes né en 1943, vous commencez à écrire dès 1963. Les premières publications se font en revue. Vous faites paraître un premier roman qui n'a jamais été traduit en France, d'ailleurs, publié aux éditeurs. Le troisième est celui qui va vous permettre de connaître le succès, aussi bien succès critique que public, et qui va vous intégrer dans la famille science-fiction. Je dis famille volontairement parce que vous l'avez utilisé vous-même, ce terme. Ce roman, c'est Le Monde Averti, paru en 1974, qui a été édité. Traduit et publié en France immédiatement après, en 1975, qui a eu le prix British Science Fiction. Depuis, il y a eu une quinzaine de livres, je ne vais pas tous les citer, mais il y a un futur intérieur, le Prestige, qui a été adapté au cinéma, Les Extrêmes, Existence, qui est une novélisation du film de Cronenberg. Je crois que vous n'aimez pas trop le film. Oui, il y a une photo de vous, plus jeune, on va dire. La séparation, le glamour, donc, dont on va peut-être pas mal parler, qui a été écrit en 1984, il avait écrit plusieurs versions, et il est ressorti en France aussi dans une autre version avec un autre titre. Le titre original en France était Le Don, mais le titre original en anglais c'était bien déjà le glamour, et puis il est ressorti en 2005, on va parler un petit peu plus longtemps de celui-ci. Toute votre œuvre tourne autour de la perception de la réalité en explorant différentes ressources de l'imaginaire. Et en ce sens, ça sera un peu l'objet d'une première question, en tout cas d'une première interrogation avant d'entendre un premier extrait. C'est de savoir, je dois vous échanger avec Victoria. De savoir, puisqu'on parle de la famille de la science-fiction, vous avez, par rapport à cette famille, vous utilisez aussi bien les aspects technologiques, je dirais, la question du fantastique et du doute qui peut être inscrit dans certaines œuvres, le rapport au temps avec certains livres qui sont des uchronies, qui placent le lecteur dans un monde parallèle si l'histoire avait évolué différemment. Il y a des critiques qui utilisent à votre égard le terme transfictionnel plutôt que d'auteur de science-fiction. Transfictionnel, je ne sais pas si le terme peut exister en anglais, mais probablement, en tout cas on va comprendre de la même manière. Et donc voilà, la première question avant d'entendre le texte, c'est justement votre rapport à la science-fiction. C'est une famille, vous dites que vous la quittez de temps en temps et que vous ne pouvez pas vous empêcher parce que c'est votre famille qui revient de temps en temps. Et en même temps, pour nous, lecteurs, cette famille, c'est celle de la science-fiction anglaise, qui n'est pas la même que l'américaine, avec des auteurs comme Ballard, comme Brian Aldiss, comme Moncom, comme John Brunet. Donc par rapport à cette famille-là, d'auteurs sont à peu près de cette génération des années 60-70 et qui ont aussi fait partie de l'underground londonien à l'époque. Comment est-ce que vous sentez, vous vous placez et vous situez votre parcours?
Bonjour. Those writers that Pascal has mentioned, I know them all, and I've read them all, and I feel a sort of sympathy with them, but not much connection with them.
Oui, les écrivains dont vous avez parlé, Pascal, moi je les connais, je les ai déjà rencontrés, je compatis avec eux, j'ai de la sympathie pour eux, mais
else is different. We all have different ways of doing it, and some writers we feel some familiarity with. For instance, I'm very fond of the work of J.G. Ballard, and he was one of the first writers that I discovered for myself. At the time, he was a young writer, he only published a few short stories. I thought he was just wonderful.
Oui, tous les écrivains sont différents. Il y a certains avec qui je me sens plus à l'aise, plus, je me sens plus familière. Par exemple, J.J. Ballard, c'est le premier écrivain que j'ai découvert. Il était jeune à l'époque et moi aussi.
But the influence that one writer has on another is often misunderstood. And I've never, ever thought that I'd write about Ballard, who is to me brilliant and magical. But what a writer like Ballard will do for another writer is show the possibilities of what you can do with writing.
Oui, donc c'est comme
intéressant
que c'est l'influence peut-être des autres écrivains, c'est mal compris parfois. J'ai jamais pensé que je pourrais écrire comme Ballard.
And other writers show you what we shouldn't do. For instance, I think Michael Moorcock is a bad example for us all.
Il y a d'autres écrivains qui nous montrent ce qu'on ne devrait pas faire, comme Michael Moorcock, par exemple.
Alors, je vous propose d'entrer un petit peu dans un premier texte qui est le glamour, avec un premier extrait de 4-5 minutes qui va être lu. Aussi parce que finalement, par rapport à Ballard dont vous parlez, Ballard qui est un auteur et de science-fiction et de livres qui ne sont pas toujours appréciés dans la science-fiction, et de certains ouvrages qui peuvent être entre les deux, il me semble que pas mal de vos romans, et en particulier celui-ci, peuvent effectivement être de la même manière non classifiables, je dirais, non à mettre dans une case, en particulier pas celle de la science-fiction. Donc je vous propose d'écouter un premier extrait dès maintenant. Donc, je replace le micro.
Je suis rentrée à Londres au bout de 15 jours, les yeux rouges, épuisée par 13 heures d'avion. Les problèmes rencontrés sur le tournage m'avaient vidée. On ne pouvait rien faire sans la permission des autorités qui nous donnaient toujours en retard. Il régnait la chaleur humide et brûlante des tropiques. Certaines interviews étaient très difficiles à organiser. Chaque fois qu'on allait filmer quelque part, il nous fallait l'accord des bureaucrates locaux ou des militaires, suspicieux, voire hostiles. Enfin, le travail était fait, j'avais été payée et je rentrais chez moi, en lieu sûr, heureux d'en avoir terminé. Je suis arrivée fatiguée à l'appartement, mais aussi nerveuse et morose. Londres me paraissait froid et humide, quoique propre, prospère et moderne, après les bidonvilles et les taudis d'Amérique centrale. Je suis restée chez moi le temps de parcourir mon courrier avant d'aller chercher ma voiture pour me rendre chez Sue. Un de ses voisins m'ayant ouvert la porte de la grande demeure, je me suis empressée de frapper à sa porte personnelle. Pas de réponse, mais on y bougeait dans sa chambre. Un instant plus tard, Sue s'est montrée, enveloppée de sa robe de chambre, quoique visiblement nue en dessous. On s'est dévisagé quelques secondes. « Autant que tu entres », a-t-elle enfin lâché en jetant un vague coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il y avait quelqu'un derrière elle. Je l'ai donc suivie dans la pièce, prêt à la confrontation, emplie d'appréhension. La chambre, quasi obscure, sentait le renfermer. Les rideaux étaient clos, mais la lumière du jour filtrait à travers le fin tissu. Sue les a ouverts. Le studio, en partie souterrain, donnait sur l'arrière de la demeure. Près de la fenêtre, un petit puits absorbant en briques disparaissait parmi les buissons et l'herbe folle du jardin qui ombrageait les lieux. Il me semblait qu'il flottait une vague brume bleutée, comme si quelqu'un venait de fumer. Mais ça ne sentait pas le tabac du tout. Sioux s'est levé à mon arrivée. Ses couvertures étaient entassées au pied de son lit défait et ses vêtements drapés sur une chaise. Sa table de nuit était occupée par une petite assiette plate contenant 3 mégots, des allumettes utilisées et pas mal de cendres. J'ai promené alentour un regard furieux et méfiant à la recherche de Mia. Sioux a refermé la porte derrière moi, puis s'y est adossée. Elle tenait sa robe de chambre fermée autour de son corps. Malgré son regard fuyant et son visage quasi dissimulé par sa chevelure emmêlée, je voyais bien qu'elle avait le menton et la bouche rouge. « Où est-il » ai-je demandé. « Où est qui ?»« Nial, bien sûr. »« Tu le vois ?»« Tu sais très bien que non. Où est-il passé ? Il est sorti par la fenêtre ?»« Ne sois pas idiot. » « Qu'est-ce que tu faisais au lit en pleine journée ?» ai-je hurlé. Mais soudain, mon assurance s'est envolée. J'ai consulté ma montre, toujours réglée sur l'heure de l'Amérique centrale. L'avion ayant atterri à Heathrow peu après l'aube, j'en ai déduit qu'il devait être plus de midi. Je n'avais pas à travailler aujourd'hui, alors j'ai fait la grasse matinée. Sioux m'a frôlée en allant s'asseoir sur le lit. « Pourquoi n'as-tu pas appelé avant de passer ?»« Pourquoi ? Je viens de rentrer. Je suis venue tout droit chez toi. Voilà pourquoi. Je pensais que tu appellerais d'abord. Tu m'avais promis que ça n'arriverait pas, Sioux. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. » J'ai montré le cendrier d'un grand geste. « Tu me prends vraiment pour un idiot, quoi ? Arrête de me mentir, ça suffit. » Les larmes aux yeux, elle a pourtant soutenu mon regard. « Je suis désolée, Richard, » a-t-elle balbutié. « Nial m'a retrouvée. Il m'a suivie un soir quand je suis repartie du travail et je n'ai pas discuté. C'était quand ? Il y a 2 semaines. Écoute, je sais ce que ça veut dire. Nous ne rendons pas les choses encore plus pénibles qu'elles ne le sont déjà. Il ne me laissera jamais tranquille. Alors ça ne marchera pas entre toi et moi, quoi qu'on fasse, quoi que tu me fasses promettre. Jamais je ne t'ai arraché la moindre promesse. D'accord, c'est fini, voilà. » Ah ça, c'est fini, c'est sûr. Restons-en là. C'était tout juste si je l'entendais. Recroquevillée sur son lit, les bras pliés dans son giron, penchée en avant au point que je ne voyais plus d'elle que le sommet du crâne et les épaules, comme elle s'était légèrement tournée face à la table de nuit, je me suis aperçue que le cendrier avait disparu. Elle s'était débrouillée pour le cacher d'un geste vif, dissimulation coupable justifiant tous les soupçons qui m'avaient envahi depuis que j'avais frappé à sa porte. Nial n'était partie de chez elle que peu de temps avant mon arrivée. « Je vais te laisser, » ai-je annoncé. Mais de quelle manière Nial te tient-il en son pouvoir ? Pourquoi te laisses-tu faire sans réagir ? Il a le glamour, Richard. Tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce que le fait qu'il soit glamour a à voir avec cette histoire ? Il n'est pas glamour. Il a le glamour. Nial a le glamour. Ce n'est pas sérieux. C'est ce qui compte le plus dans ma vie. Dans la tienne aussi. À cet instant, elle a relevé les yeux. Mince silhouette triste, assise dans un fouillis de couvertures froissées, elle pleurait sans bruit, sans espoir. Je m'en vais, ai-je décidé. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Sioux s'est redressée, se déployant avec raideur, comme si elle souffrait. « Je t'aime à cause de ton glamour, Richard. C'est ça qui m'a poussée vers toi. Ne rajoute pas un traître mot. Tu n'y peux rien. Le glamour ne te quittera jamais. Voilà pourquoi Nial ne me laissera pas reprendre ma liberté. C'est pareil pour lui, pareil pour moi. Vous êtes tous les deux baignés par le glamour. Vous ne pouvez pas laisser... » Dans la chambre derrière moi, s'est alors élevé un bruit parfaitement reconnaissable, un rire masculin, le ricanement méprisant d'un voyou incapable de contenir plus longtemps son amusement. J'ai fait volte-face, horrifiée, car je venais de comprendre que Nial était là depuis le début. Mais je n'ai vu personne. Puis je me suis aperçue que la grande porte de l'armoire était ouverte depuis le début aussi, et qu'il y avait assez de place derrière pour dissimuler quelqu'un. Il ne pouvait être que là, juste là. Étourdie par une nouvelle bouffée de colère et de désespoir, je n'avais plus qu'une envie, m'en aller. Je me suis jetée sur la porte du studio. Je l'ai brutalement ouverte, scintillement des verrous d'acier. Je suis sortie et j'ai claqué le battant derrière moi. Après quoi, je me suis précipitée dans la rue, trop furieux pour conduire, puis éloignée de toute la vitesse de mes jambes. Dans la nuit de ma rage, où je marchais sans répit, ne surnageait qu'un unique désir, être débarrassée d'elle.
Merci, c'était donc un extrait du Gabon, une scène clé, un passage où vous l'avez entendu, il y a une dispute de couple, un personnage qui surprend sa compagne au lit en pleine journée et se méfie parce qu'il pense qu'elle est toujours sous l'influence de son ancien amant. Ça, c'est la lecture première, dirait-on. Et c'est le regard surtout de Richard Martel, donc le narrateur, à ce moment-là. Et on va s'apercevoir que dans ce livre, il n'apparaît aucun élément technologique, aucun élément de science-fiction. Il y a un doute permanent qui s'installe sur la véracité des faits. Ce qu'on peut ressentir quand on est en relation avec les autres de manière normale, je dirais, mais là, il y a quelque chose d'autres qui se placent, comme ce fameux l'amour, quand on va en parler un petit peu plus avec beaucoup de frères. Et ce ton particulier qu'ont les personnages, selon en tout cas la narratrice à cette période-là du roman. Alors, laissez faire, juste, on va rester un petit peu sur ce livre qui est important, même si dans votre évolution, on pourrait peut-être commencer par autre chose. Simplement parce que ce que je disais tout à l'heure à propos de cette préoccupation permanente d'interroger la réalité et la perception de la réalité, on est dans cette question-là. Je voudrais savoir comment cette histoire est arrivée, comment cette thématique de l'invisibilité, puisqu'il est question de ça dans ce livre, ce fameux tabou, ce don, c'est un personnage qui prétend pouvoir être invisible ou être invisible. Comment cette thématique-là est apparue et pourquoi vous avez eu envie de la traiter avec un récit tout à fait réaliste, je dirais.
First of all, let me say why it's called the glamour. Glamour is an old Scottish word, and it's a kind of magical spell. And the idea was that a young man and a young woman would become engaged to be married, and the young man would go to the old lady of the village and ask for a spell of glamour to be put on the young woman, so that the other men could no longer see her.
Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi le livre s'appelle Glamour. En fait, Glamour, c'est un mot ancien écossais. Ça veut dire sort magique. En fait, quand, en Écosse, quand un couple se fiancé, le garçon, l'homme, il allait voir une sorcière du village et demander un sort pour mettre sur sa future épouse pour la rendre invisible aux yeux des autres hommes.
The novel began with the perception that I had that I was invisible sometimes, that when I was trying to get served in a bar or get a dessert on. You know, when you want to go somewhere else and the waiter can't see you. And I also felt that in certain social circumstances, I'm naturally quite shy, and at a party, I always felt that nobody could ever see me. And so...
En fait, fait, le roman a commencé avec la perception, le sentiment que moi, j'étais souvent invisible. Surtout quand j'attendais au bar, par exemple, dans un pub, ou quand je voulais attirer l'attention d'un serveur. Et en plus, dans les situations sociales, comme des fêtes, par exemple, je suis assez timide et souvent j'avais le sentiment que j'étais invisible.
It occurred to me that invisibility was not caused by the person who is invisible, but by the attitude of those around us. In other words, the waiter chooses not to see us because he's busy on something else. And therefore, it was really a question, not of being unable to see them, but not knowing how to see somebody.
Oui, en fait, la question de l'invisibilité, ça vient des autres. C'est une attitude envers soi. Le serveur, il choisit de ne pas nous voir, en fait. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ces questions de l'invisibilité.
It seems to me that there would be some people who, in a sense, have not taught us how to see them.
En fait, il y a des personnes qui nous ont pas enseigné, qui nous ont pas appris comment les voir.
And that these people are around us every day, and you walk down the street, you see 20 of them, you don't notice them.
Et ces personnes, ils nous entourent. Si on marche dans la rue, on en voit le 20, mais on ne les remarque pas.
It occurred to me that it was entirely possible that there were whole communities of people like this who were never seen because people never noticed them.
Oui, il y a peut-être. Je pensais que peut-être il y a même des communautés de personnes qu'on ne remarque jamais, qu'on ne voit jamais.
They would be in many ways free of our society. They wouldn't have to pay tax. They wouldn't have to join the army. And they would have to pay bills, but at the same time they could never go to the dentist.
Oui, quelque part ils seraient libérés de notre société, ils seraient pas obligés de payer des taxes, ni des factures, ni faire leur service militaire, mais en même temps ils auraient du mal à aller chez le dentiste.
And so that they would be free of society, but very parasitic upon it. They would have to steal everything. If they slept, they could go into somebody's house to sleep in a spare bed. No one would ever see them.
Oui, en fait, ils seraient libérés de la société, mais ils seraient un espèce de parasite de la société. Ils pourraient rentrer dans la maison de quelqu'un, par exemple, aller dormir dans la chambre d'amis, et personne ne les remarquerait.
They might be in your house tonight.
Peut-être même ce soir, ils sont chez vous.
Alors, il y a effectivement cette manière de regarder la société, certains individus, mais on sent derrière la préoccupation sociale de vos propos et politiques. Et en même temps, l'intérêt de ce livre et de quantité d'autres, c'est qu'il n'y a jamais un point de vue unique. Là, on va entendre plus tard un deuxième passage où on aura le point de vue de Sioux et non plus celui de Richard qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on aura un autre regard sur la même scène, peut-être, ou une autre, mais en tout cas, une autre manière de regarder la réalité. Et c'est ça qui est vraiment très frappant dans votre œuvre, c'est qu'on est toujours dans un doute sur la manière dont on peut percevoir la réalité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette question de la visibilité, une certaine manière de voir des individus, mais c'est surtout la perception qu'on peut avoir des autres, chacun avec son point de vue qui vous préoccupe. Par exemple, dans les extrêmes du futur intérieur, il y a différents niveaux de réalité, donc deux autres romans, et c'est toujours une manière de fuir la réalité que font les personnages, de la recréer. Mais derrière tout ça, il y a une sorte de machinerie, je dirais. Dans ce livre-ci, le Clairbourg, c'est la même préoccupation, mais utilisée sans machinerie, uniquement avec le doute. Ma question, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment, s'il y avait un fil conducteur dans l'ensemble de votre œuvre qui contient des livres aussi différents, Est-ce que ce serait vraiment celui-ci? Comment regarder la réalité? Comment la percevoir? Éventuellement, comment y échapper?
Reality is what I think is real. It's also what you think is real. It might not be the same thing. The classic example is colours. We all know what colour green looks like. But do we all see the same thing when we see something that's green? There's no way we'll ever find out. And one thing that's interesting is if you have some event, perhaps even something as simple as a sporting event, and two people discuss it, they've quite often seen quite different things, and will be moved by those things, and will react to them, and yet they won't agree on what they actually saw.
Oui, donc par rapport à la réalité, ce que je pense et ce que vous pensez, c'est peut-être pas la même chose sur un objet ou par exemple une couleur, comme la couleur verte. Par exemple, on a un objet vert, peut-être on ne le voit pas exactement pareil. Ce qui m'intéresse, c'est aussi par exemple un événement sportif. Il y a deux personnes qui discutent, ils ont tous les deux regardé l'événement et ils ont vu des choses différentes et ils n'ont pas la même vision de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas le même avis.
I think Pascal's question is about using machinery to get to this state of reality. And when I was younger, as a younger writer, I felt that I somehow had to explain it. By use of some external means, why people would perceive it differently. And as I've grown older, I've realised I don't need that, and that people are quite free to get things wrong all on their own.
Oui, quand j'étais plus jeune, l'idée de la machinerie dans l'explication de l'état de la réalité, c'était quelque chose que je pensais que je devais utiliser pour expliquer avec des moyens externes la réalité. En vieillissant, j'ai eu moins de besoin d'utiliser ces moyens externes.
The only reality in my view is memory. At any moment in our lives, we are the sum of our memories.
Oui, parfois la réalité, ce qui est très intéressant, c'est la mémoire. À n'importe quel moment de notre vie, nous sommes la totalité, la somme de nos mémoires, de nos souvenirs.
Those are what helps cope in life. They are our own certainty.
C'est ce que nous aide à supporter la vie, à aller de l'avant.
But of course, nobody shares memories. Everyone has different memories.
Mais bien sûr, il y a personne qui partage les mémoires. Chacun a ses propres mémoires.
You only have seen a relative who contracts Alzheimer's disease and loses memory. You suddenly find human identity becomes very, very questionable.
Oui, si par exemple on voit quelqu'un, un parent qui a la maladie d'Alzheimer, on voit qu'il perd ses mémoires et sa vision de la réalité change.
A lot of my books have been about loss of memory. For instance, in the glamour, much of the invisibility is a metaphor for loss of memory.
Oui, j'ai écrit beaucoup de livres sur la perte de mémoire. Par exemple, l'invisibilité dans le livre The Glamour, le glamour, c'est un métaphore pour la perte de mémoire.
In a sense, the people who are in the glamour are forgotten.
Oui, dans un sens, la personne, dans le glamour, il s'en oublie.
I wrote three books, one after the other. One, the first was called Future and Temporary, A Dream of Blessings.
Oui, j'ai écrit trois livres. Le premier, c'était Future and Intérieur.
And the second was called, in French, La Fontaine Pétrifiante. And the third was The Glamour. And all three of these books...
Et le troisième, Le Glamour.
Yeah. And all three of these books deal in different ways with the consequences of losing memory.
Oui, les trois livres traitent de différentes façons des conséquences de la perte de mémoire.
But they're not about illness, they're about people who remember wrongly for different reasons.
Oui, il ne s'agit pas de la maladie, mais ils ont une autre façon de se rappeler, se souvenir de différentes façons.
In La Fontaine Pétrifiante, the central character wins a lottery by which he will be given life ever after. In other words, he becomes an immortal.
Dans La Fontaine Pétrifiante, le personnage central il gagne la loterie où il va gagner la vie immortelle.
But the price of that is he has to lose all his memories that are taken away from him by the medical process which makes him immortal.
Mais le prix, c'est que le processus médical qui le rend immortel lui fait perdre en même temps tous ses mémoires.
So he writes his memories down first.
Donc pour commencer, il écrit tous ses souvenirs, tous ses mémoires.
And when they try to remind him of his memories, we, the readers, discover that he hasn't written his real memories, but he's written a novel.
Et en fait, quand on essaie de lui rappeler de ses mémoires, en fait, on se rend compte, le lecteur, qu'il n'a pas écrit ses mémoires, il a écrit un roman.
So in effect, it becomes a character in his own novel.
Donc, à la fin, il devient un personnage dans son propre roman.
Oui, oui, ça c'est. Alors, je vais lire un petit passage de Futur intérieur où il y a cette question-là qui est abordée, et après, on reviendra justement à la question du narrateur et de celui qui écrit. Tout cela, c'était la réalité. Vous pouvez la toucher, la ferrer. Il respirait l'air moisi de la cave, transpirait dans la pièce sans ventilation, soulevait des nuages de poussière ancienne. C'était le monde de la réalité extérieure, et il en était nécessairement ainsi. En passant devant les rangées en apparence interminables de dossiers de livres, dont chacun contenait ses propres fragments de mémoire du passé, il concentra sa pensée sur ce qu'il entendait par réalité. Y avait-il une réalité intérieure de l'esprit, plus plausible que celle des sensations extérieures? Le fait de pouvoir toucher quelque chose, voulait-il dire que c'était réel? Alors là, on est dans quelque chose qui est encore tout à fait de l'ordre de la machinerie de science-fiction, je dirais, avec ce livre-ci. Mais on retrouve finalement un peu les mêmes questions aussi avec Une femme sans histoire, où là, on est dans un roman tout à fait similaire au glamour d'apparence tout à fait réelle, donc fantastique, peut-être plus que la science-fiction, le doute, en tout cas, s'installe toujours. Et là, la question du souvenir et de la mémoire arrive différemment, parce que c'est celle avec cette sensation de déjà-vu qu'on a tous connu. Alors ça c'était juste pour faire un rapport entre les deux, mais la question c'est à propos du narrateur. Là on a découvert avec ce que vous venez d'expliquer pour le précédent ouvrage, que finalement le personnage, auteur, devient un personnage de son propre roman, c'est ça ce qui se dit. Et cette question-là, elle nous fascine aussi, parce qu'on est toujours en train de se demander qui écrit. Où est vraiment la fiction? Il y a très souvent de la fiction dans la fiction, de la métafiction. Et ça, c'est quelque chose qui forme aussi la manière dont vous abordez la fiction. Christopher Priest, la question, c'est par rapport à cette position de l'écrivain, qui est toujours mise en doute finalement, est-ce que vous-même, vous avez conscience de vous remettre en doute en tant qu'écrivain vous-même en pratiquant cette méthode de narration?
Mm. Graham Greene is one of my writers I like most. Graham Greene. I think it's called Green Green, he once said about writing fiction is that we don't invent our plots, we remember them.
Oui, donc Graham Greene, un écrivain que j'aime beaucoup, une fois il a dit que nous n'inventons pas nos histoires. Nous les inventons pas, nous nous en souvenons.
This for me is, when I read that, it was a real revelation. To me, it explains something that I've been doing instinctively to that point.
Oui, quand j'ai lu ça, c'était une vraie révélation pour moi parce que ça m'expliquait quelque chose qui était déjà une intuition pour moi, quelque chose que je faisais déjà d'une intuition, d'une façon intuitive.
I've always found it extraordinary that when setting out to write a story, a made up plot,
j'ai toujours trouvé extraordinaire quand on commence à écrire quelque chose une histoire fictionnelle.
In other words, something I'm inventing as untrue.
Quelque chose que j'ai inventé qui n'est pas vrai.
Then a voice in the unconscious says, yes, but this reminds me of the time when.
Oui, il y a une voix de l'inconscient qui me dit, oui, ça me fait penser à le temps quand j'ai.
So, I'm not saying that what one writes is autobiographical.
But
you have this kind of unconscious identity, your own life, your own memories.
Mais il y a une espèce d'identité inconsciente de notre propre vie, de nos mémoires, souvenirs.
Which becomes the book that you write. Gregory also said that the primary work of a writer is to forget events.
Oui, et ça devient un livre qu'on écrit. En fait, Graham Greene a dit également que le travail primaire d'un écrivain, c'est d'oublier ce qu'il a.
Well, the trouble is, what he said was that what a writer forgets becomes the compost of the imagination.
Ce qu'un écrivain oublie, ça devient la base, la terre, quelque part, les racines de ce qu'on. De l'imagination.
Ok, c'est intéressant, tout ce qu'il oublie, qui devient le compost, on peut dire compost aussi, en français, de l'imagination. Ce terreau-là, vous en servez de multiples manières. Je voudrais, avant d'entendre un deuxième passage du piano, parler encore d'un thème qui est un petit peu différent, mais qu'on a évoqué déjà un petit peu avec finalement cette manière bipolaire de regarder les choses. Il y a beaucoup plus de doutes que ça, il y a des multiples manières de regarder la même histoire. Mais très souvent, vous racontez les histoires avec des effets de miroir. Il y a deux narrateurs pour la même version de l'histoire, deux versions de l'histoire faites par le même narrateur selon qu'il se souvient ou pas, qu'il a retrouvé la mémoire ou pas. Dans Le Prestige, il y a deux magiciens qui sont comme des frères jumeaux. Les histoires sont racontées à une époque lointaine, mais aussi aujourd'hui. Voilà, il y a toujours cet effet de gélérité, de miroir, pour raconter une histoire. Est-ce que, pour vous, c'est important de pouvoir systématiquement, comme ça, prendre le contre-pied, finalement, d'une version pour partir dans une autre version?
About 20 years ago, no, maybe more than that, 20 or 30 years ago, I came across an account of an experiment being carried out at the University of Minnesota in the USA.
Oui, il y a 20 ans, j'ai trouvé un pod, une expérimentation qui a eu lieu à l'Université de Minnesota aux États-Unis.
And they were contacting and reuniting twins who had been separated at birth.
Ils contactaient et rassemblaient des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance.
These twins were now mature, they were adults, they were. Some of them were 50 or 60 years old.
Les jumeaux étaient adultes. Ils avaient 50 ans, 60 ans.
Most of them had no contact at all with their siblings.
La plupart n'avaient pas eu de contact du tout avec l'autre de frères ou sœurs.
And many of them had no knowledge that they even were twins.
Et il y avait beaucoup qui ne savaient même pas qu'ils avaient un jumeau ou jumelle.
For example, one pair of twins were taken to Germany, and one young man was brought up as a Nazi, and the other was brought up as a Jew.
Par exemple, il y avait deux jumeaux. Il y avait un qui était amené en Allemagne, et il y avait un qui avait grandi comme Nazi, et l'autre qui avait grandi comme Juif.
Many of the Jews, many of the jumeaux, the twins, were moved to different countries.
Il y avait beaucoup de jumeaux qui étaient partis à l'étranger.
When the twins were reunited, they found extraordinary coincidences.
Quand ils les ont réunifiés, ils avaient trouvé des coïncidences extraordinaires.
But some of it was very simple, but they would have the same mannerisms. They would move their hands the same way.
Il y avait des choses simples, par exemple, ils avaient les mêmes gestes, ils bougeaient les mains dans la même façon.
Comb their hair the same way.
Puis les cheveux dans la même façon.
And they liked the same beer.
Ils aimaient la même bière.
And they supported the same football.
Ils étaient fans de la même équipe de foot.
But quite stunningly, they often married people with the same name. So men would both marry a woman called Mary.
Et ce qui était très étonnant, c'était par exemple que les hommes ils mariaient des femmes avec le même prénom. Par exemple, les hommes mariaient une femme ou deux jumeaux avec la femme et le même prénom Mary.
They had children with the same names.
Ils avaient des enfants avec les mêmes prénoms.
There was one case of twins who were brought up in America, and every year they went to the same resort. And rented a sort of beach cabin in the same complex, a week apart, and did this for many years.
Il y avait même un cas, un père de jumeaux, aux États-Unis, que tous les ans, pratiquement en même époque de l'année, ils allaient au même station balnéaire et louaient un cabane, un appartement au bord de la mer, et à une semaine d'écart chaque année.
In many cases that had similar accidents, they would have a road accident, a car crash, and it would be on the same day.
Il y avait beaucoup de cas des jumeaux qui avaient des accidents le même jour, des accidents de voiture le même jour, la même date.
They almost all had the same illnesses at the same time.
Ils avaient presque tous eu les mêmes maladies au même époque.
I thought this was very weird shit.
C'est vraiment bizarre.
It seemed to me that twins themselves are not that different from us.
Il semblait que des jumeaux, ils nous ressemblent aussi. Ils ne sont pas très différents de nous.
However, they are sort of a comparison with each other.
Cependant, ils sont une espèce de comparaison l'un avec l'autre.
In other words, we can find out by observing twins what is perhaps true of us. In other words, if they have an accident on the 14th of February, and that's a great coincidence, perhaps they were both destined to have that accident.
Oui, peut-être en les observant, on peut peut-être savoir ce qui se passe avec nous. Par exemple, si tous les deux ils ont un accident sur le même jour, le 14 février, par exemple, peut-être on peut dire que c'est le destin.
And therefore, so are we. We are destined in some way that I can't understand to have a life set out before us as we live.
Oui, et donc pour nous aussi, peut-être on a un destin qui est déjà écrit devant nous.
Is anyone here a twin?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est jumeau, jumelle?
On n'aura pas de preuve aujourd'hui. Le temps passe très vite, donc on va être obligé de faire beaucoup plus court. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait demander à Christopher Chris. Mais ma dernière question concerne la réécriture. Le soin que vous avez mis à écrire plusieurs fois de Blamour, au point d'avoir en français deux traductions tout à fait différentes de deux des versions de ce livre. Qu'est-ce qui vous a amené à réécrire ce livre-là, qui est d'une qualité d'écriture, je le souligne, vraiment très, très importante, très, très forte. Et comme tous vos livres, à la fois très minutieusement construit sur des détails avec des progressions indécelables et en même temps avec un schéma, une architecture globale très élaborée avec des alternances d'époque, de voix, etc. Et surtout un attachement à la phrase, aux mots, à l'écriture et aux ressorts psychologiques, on peut l'entendre un peu, qui est vraiment très fréquente. En France, on devrait passer que ça soit plus dans la collection Blanche chez Gallimard et pas forcément dans la collection science-fiction chez Gallimard. Cet intérêt que vous avez à l'écriture proprement dite, le fait de réécrire plusieurs fois de l'amour, quelle force vous a poussé à le faire?
The main one was that I was asked by the BBC to convert the Glamour into a radio
play.
And the way I did that was to tell the whole story of the novel from the point of view of Susan, who is one of the characters.
Et pour le faire, j'ai décidé de raconter toute l'histoire du point de vue de Susan, un des personnages principaux.
That simply gave me more insights into what she was like, and it gave me a fuller picture of her, and so that made me want to go back to the novel and enhance it a little.
Oui, donc ça m'a donné plus d'informations, plus de vision sur ce personnage, et ça m'a fait, j'avais envie d'aller revoir le roman par la suite.
The other two influences were much more trivial. They're really to do with technology. And although I think a novel is interesting when it's in its period, two things came along in the real world, which rather made the novel difficult. The first was close-up intelligence.
Oui, en fait, il y avait deux autres influences qui étaient plus simples, quelque part plus basiques, et qui étaient en rapport avec la technologie. Je pense qu'il faut toujours prendre en compte la technologie, les avancements de technologie. La première chose, c'était la télévision en cours.
Most of the Glamour is set in Britain, and Britain is now the most photographed country in the world.
Oui, la plupart du roman de Glamour se passe en Angleterre, au Royaume-Uni, et le Royaume-Uni actuellement c'est pays où on a le plus de caméras.
The cameras are literally everywhere. When you buy gas, when you buy petrol, you're filmed. If you go to a shop, you're filmed. In shopping, in bars, you're filmed.
Oui, il y a des caméras partout. On est filmé partout. Quand on va dans un magasin, quand on est dans la rue, dans un bar, on est constamment filmé.
I don't have a view on this, except it mucked up my story.
J'ai pas beaucoup d'avis sur cet phénomène, mais ça m'a un peu dérangé le livre. Ça posait problème pour le livre.
And the other thing that happened was that a large part of the plot tension in the glamour revolved around telephone conversation.
Autre chose, c'est que beaucoup de l'action, la tension dans le roman se passe à lieu autour du téléphone.
Which depended on the receiver of the call, not knowing where the maker of the call was.
Ah, et ça dépendait de la personne qui recevait l'appel, et ne savait pas où se trouvait la personne qui appelait.
And then some bastard invented mobile phones.
Et puis il y a quelqu'un qui a inventé les téléphones portables.
So I just had to take account of that.
Donc j'ai dû prendre en compte tout ça.
Oui, effectivement, il y a des avancées technologiques qui ont modifié ça, mais je pense aussi, pour avoir lu les deux versions, qu'il y a aussi de votre part, comme tout est vraiment dans la suggestion des tout petits détails de forme dans la forme que vous avez dû réécrire et repenser par la même occasion.
Yes, I mean you're right, but having decided to reapproach the novel for those reasons, I just walked through the thing and typed it out again. Of course, on the way, I just found different ways of phrasing it. But substantially, the novel is the same as it's always been.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais quand je me suis aperçu qu'il y avait ces changements technologiques, j'ai décidé de revoir tout. J'ai revu tout. Et en même temps, j'ai commencé à réécrire.
Alors, on va s'arrêter avec une dernière lecture, toujours du glamour. Cette fois-ci, c'est le point de vue de Sue qu'on va entendre. Et puis après, on terminera là. Mais je vais te redonner le micro.
J'étais née dans une banlieue excentrée de Manchester, 26 ans plus tôt, non loin de la campagne du Sheffield. Mes parents, des Écossais, étaient originaires de la côte ouest, près d'Haïr, mais aussitôt mariés, ils avaient déménagé au sud, en Angleterre. Mon père était employé de bureau, près de chez nous, dans une grande entreprise. Ma mère, serveuse à temps partiel. Mais pendant notre petite enfance, à Rosemary, ma sœur et à moi, elle était devenue femme au foyer pour s'occuper de nous. Autant que je le sache et que je m'en souvienne, mes premières années ont été normales, sans rien qui laisse présager de ce que j'allais devenir. C'est à la puberté que j'ai changé, graduellement. Je ne me rappelle pas au juste quand j'ai pris conscience d'être différente des autres lycéennes, mais une configuration distincte s'était mise en place avant mes 15 ans. Ma famille remarquait rarement ce que je faisais. La plupart du temps, mes professeurs ne tenaient aucun compte de moi lorsque j'essayais d'intervenir en classe. Mes condisciples semblaient tout juste se rendre compte de ma présence. J'ai perdu mes années d'enfance une à une. J'étais bonne élève. J'avais en général des notes plus que correctes. Mais mes bulletins trimestriels comportaient des remarques du genre « niveau moyen, discrète en classe, constante ». Je ne brillais qu'en une matière, l'art, parce que j'avais du talent, certes, mais aussi parce que l'enseignante faisait l'effort de m'encourager en dehors des heures de cours. Ces explications risquent de donner l'impression que mon adolescence s'est écoulée en douceur, alors qu'il n'en est rien, bien au contraire. Quand je me suis aperçue que je n'avais pas à subir le contre-coup de mes écarts de conduite, je me suis mise à semer le désordre en classe. Je lâchais les bruits grossiers, je lançais de menus objets, je jouais des tours idiots aux autres élèves. Il était très rare que je me fasse prendre, et les réactions de mes victimes m'amusaient. J'ai aussi commencé à voler des petites choses sans valeur, parce que l'impunité dont je jouissais avait quelque chose d'excitant. Ma conduite ne m'empêchait pas de rester moyennement populaire. J'étais acceptée de tous, sans être proche de personne. Au bout d'un moment, passer inaperçu a affecté ma santé. Mon adolescence a été une longue période d'anémie, pendant laquelle les migraines s'enchaînaient. Je m'endormais aux moments les plus inattendus. J'attrapais toutes les maladies qui traînaient. Le médecin de famille en accusait la croissance ou des prédispositions congénitales. Mais j'ai compris plus tard que c'était mes efforts inconscients pour rester visible qui me causaient tant de problèmes. Je voulais qu'on me remarque, qu'on me croie comme les autres. J'aspirais à une vie normale. Cette envie se manifestait en m'imposant de rester visible, ce qui avait un prix. J'oscillais en permanence entre les deux états, alors que ces allers-retours se soldent par une tension terrible, je le sais à présent. Seule la solitude me soulageait. Je profitais des longues vacances scolaires et parfois des week-ends pour aller me promener à la campagne. Un court trajet en car me permettait de gagner au sud une contrée encore vierge, toute de bois et de champs. Passer Winslow et Utterley Edge, là-bas, loin des grandes routes, je me laisserais aller avec joie au monde de l'invisible, comme si j'étais débarrassée de mes vêtements, de mes affaires, de mes soucis. J'ai rencontré Madame Cale lors d'un de ces petits voyages. J'avais 16 ans. C'est elle qui m'a remarqué la première et qui a engagé la conversation. Moi, je n'ai vu qu'une promeneuse accorte, quoique vieillissante. Elle arrivait dans ma direction, un petit chien trottinant sur ses talons. On s'est croisés, on a échangé un sourire rapide, comme le font parfois deux parfaits inconnus. Puis on a continué chacune sur sa lancée. La pensée ne m'a pas frappée tout de suite qu'elle m'avait réellement vue, à un moment où je me savais invisible. Il ne m'a fallu que quelques instants pour l'oublier. Alors son chien m'a dépassé en courant. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Elle avait fait demi-tour et me suivait à présent. Quand on a fait connaissance, ses premières paroles ont été « Dites-moi, mon enfant, savez-vous que vous avez de l'amour ?»
Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir assisté à cette rencontre. Je voudrais remercier l'actrice Sophie Bourret, Victoria, pour les propos interprétés et puis évidemment Christopher Priest pour cet échange. On est obligé de raccourcir un petit peu le propos, donc je ne vous propose pas de procéder au jeu des questions-réponses, mais Christopher, vous êtes encore un peu sur le stand pour dédicacer des livres. Donc voilà, il y a possibilité de discuter avec vous. Ultime et très très courte question, votre prochain livre, c'est quoi? The Next One.
Oh.
Je ne sais pas si c'est court finalement.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Non, non, mais les Islands. I don't know what you call.
Les Islands. Les habitants des îles.
Oui.
À surveiller donc chez votre libraire. Merci beaucoup pour cette question.